Le quart d'heure philo, enjeu philosophique d'une situation du quotidien. Le regard, Jean-Marie Frey.
Je ne suis pas une âme désincarnée flottant en vivant. Je ne suis pas un esprit, pur esprit, tel un dieu qui serait à l'origine même de l'être. Au commencement, pour moi, en tout cas mon commencement, le commencement de mon expérience n'est pas le verbe. Je m'inscris dans le monde, et je m'inscris dans le monde par mon être corporel. Mon être se déploie dans un univers naturel et social. Et en tournant mes regards vers le monde et vers les autres, vers ces objets et ces êtres qui composent le monde, je peux peut-être espérer y trouver ma place. D'emblée, lorsqu'on réfléchit comme ça, le regard et le corps apparaissent intimement liés. Regarder, c'est tourner ses regards, c'est orienter son œil dans une direction. Donc d'emblée, le regard et le corps apparaissent indissociables. Indissociables, peut-être même que le regard ne serait rien d'autre que l'œil, ou en tout cas qu'un phénomène lié à l'œil, c'est-à-dire une partie de mon corps. L'œil, c'est-à-dire un organe, organon, un outil. Le regard serait donc une manière de la vue. Dire le regard, ce serait dire quelque chose qui serait de l'ordre de la vue. Pour regarder, il faut avoir des yeux. Et le regard, c'est l'œil. Lorsque je dis ça, je ramène le regard à une réalité biologique, corporelle. Dans le fond, je ne ramène pas simplement le regard à une réalité biologique et corporelle. Je ramène mon être tout entier à quelque chose de biologique et corporel. Lorsque je pense le regard en le ramenant à l'œil, je pense mon être entier en le ramenant au corps. Lorsque je regarde, il y a un jeu qui est dans ce regard. Et si le regard n'est que mon œil, le jeu n'est que mon corps. Voilà, dans le fond, je ne serai qu'un corps biologique appartenant à la nature. Alors, je m'imaginerais peut-être posséder une dimension métaphysique, mais tout cela serait dans un imaginaire. Un imaginaire que la science vient bien rapidement contredire. La science me dit que dans le fond, je ne suis qu'un corps-objet appartenant à la nature, je ne suis qu'une chose. Le corps dont je trouve la description dans les planches d'anatomie, ce corps n'est qu'un objet, une province du monde, comme le dit Merleau-Ponty, quelque chose qui appartient à la nature. Le regard et l'être biologique, le regard et l'œil, est-ce que véritablement c'est la même chose? Est-ce qu'il ne se joue pas dans le regard autre chose? Est-ce que le regard n'est pas la révélation d'autre chose que de mon être biologique? Et en disant cela, je ne suis pas en train de dire que la science a tort. Je ne suis pas en train de dire que la science se trompe et que le regard porté par la science sur le corps est un regard erroné. Non, j'envisage simplement une éventualité. Et si, lorsque la science a dit tout ce qu'elle a à dire sur le regard, et si elle n'avait pas encore tout dit? Et si, lorsque la science a tout dit, tout de ce qu'elle peut dire, elle n'avait pas encore tout dit? Dire que la science ne dit pas le regard, ce n'est pas dire que la science se trompe, c'est peut-être simplement faire remarquer que le regard n'est pas l'objet de la science. L'objet de la science, c'est l'œil. C'est un organe, une partie du monde. Le regard, c'est autre chose. Revenons à l'expérience. Si je reviens à mon expérience directe, lorsque je croise le regard de l'autre, ce que je rencontre, ce n'est pas simplement un corps, ce n'est pas simplement un œil. Lorsque je croise le regard de l'autre, je rencontre quelque chose qui est de l'ordre d'une conscience qui me fait face et qui porte sur moi précisément un regard. Le regard de l'autre, là, ça n'est plus simplement l'œil. Le regard de l'autre, c'est la conscience que le corps de l'autre incarne. Le regard de l'autre, c'est l'ancrage au monde d'une conscience qui se révèle à moi et qui porte sur moi un jugement. Souvenons-nous de cette expérience que nous faisons quotidiennement lorsque nous devons prendre un ascenseur. Je rentre dans l'ascenseur, un inconnu s'y trouve. La porte se referme et l'ascenseur s'en va, monte ou descend. Et immédiatement, je sens peser sur moi le regard de l'autre. Vous avez remarqué d'ailleurs que pour s'extraire de cette situation, il y a une porte de sortie, la seule d'ailleurs, ça consiste à dire quelque chose. Par exemple, il fait beau aujourd'hui. Tant qu'à faire, je dis ce qui renvoie à ce qui, dans le réel, dépend le moins de nous, ce qui est le moins objet d'une discussion possible, d'un affrontement possible. J'ai senti peser sur moi le regard de l'autre et je lui dis quelque chose pour lui dire que je ne suis pas une chose. Tu as fait peser sur moi ton regard et j'ai craint un instant que ce regard se trompe en ne me percevant que comme une partie du monde. Donc si je te parle, c'est que je ne suis pas une simple partie du monde. Et maintenant que je t'ai parlé, toi tu m'as entendu. Et tu sens que le don que j'ai fait a généré en toi une dette. Il va falloir répondre. Et donc l'autre va répondre, oui c'est vrai, il fait beau aujourd'hui, mais quand même, il fait meilleur qu'hier. Donc il a répondu, il a ajouté quelque chose. Un petit quelque chose supplémentaire. Etc. Et puis la porte s'ouvre, et puis on sort, et la vie continue. Et vous sentez d'ailleurs qu'au moment où la porte s'ouvre, on est comme libéré d'un poids. On est libéré du poids que représente le regard de l'autre. Donc, si l'on raisonne ainsi, le regard n'est pas l'œil. Le regard ne se réduit pas à l'organe, c'est pas une chose biologique. Le regard, c'est la présence au monde d'une conscience. C'est la révélation dans mon expérience d'un autre moi, d'un moi qui n'est pas moi. C'est la révélation dans mon expérience de quelque chose dont précisément la science ne dit rien. L'œil dont je trouve la description sur les planches d'anatomie ne me dit rien du regard. Le regard, c'est quelque chose qui renvoie à cette dimension de l'homme qui n'est pas réductible au monde des choses, au monde des objets. Le regard ici, c'est bien l'autre qui me fait face et qui fait peser sur moi quelque chose qui est de l'ordre d'un jugement. D'une certaine manière, il faut dire ici que le regard habite l'œil. Puisqu'il révèle quelque chose qui est de l'ordre d'un corps qui n'est pas un simple objet, mais d'un corps qui est un sujet. Le regard n'est pas l'œil, puisqu'il habite l'œil. Enfin, il l'habite. Peut-être que quand on a dit ça, on n'a pas encore tout dit. Peut-être qu'en réalité, les choses sont plus compliquées. Peut-être même que le regard n'est pas l'œil du tout. Peut-être même qu'il arrive parfois que l'œil ne soit pas l'organe œil, que le regard se révèle à moi alors même qu'il n'y ait pas d'œil devant moi. Sartre nous propose un exemple que je trouve éclairant. On le trouve dans L'être et le néant. Il donne cet exemple-là. Imaginons, je suis en train de regarder par le trou de serrure ce qui se passe chez mon voisin. Je commets une faute morale. Je vois... Mais je prétends voir sans être vu. Donc j'adopte une posture qui est celle du voyeur, en l'occurrence celle de celui qui se plaçant au-dessus de l'autre le chosifie. Je prétends voir sans être vu, un peu comme Dieu quoi. Tout à coup, j'entends un bruit de pas dans l'escalier. Immédiatement, je me relève le rouge au front. Je me suis senti jugé par l'autre. J'ai senti peser sur moi le regard de l'autre. La faute que j'étais en train de commettre, cette faute-là, m'est révélée de manière d'autant plus forte que la présence de l'autre et ce jugement qui l'accompagne me renvoient à la honte que suscite mon attitude. Mais dans ce cas de figure-là, j'ai senti peser le regard de l'autre sur moi et je n'ai pas vu ses yeux. Je n'ai même pas vu son corps. J'ai entendu un pas dans l'escalier. Donc bien sûr, il y a bien une dimension de corporéité sans laquelle il n'y a pas de regard. Il y a un bruit, il y a un son, en l'occurrence là. Mais le son suffit à produire le regard, en tout cas le sentiment pour moi qu'il y a un regard qui est porté sur moi. Le son suffit. Donc l'œil, sans lequel il n'y a pas de regard. Cet œil n'est pas forcément l'œil, l'organe. Ici, l'œil, c'est un bruit, un son. Si je commets un forfait et que je me glisse dans les fourrés et que d'un seul coup une fenêtre s'allume, je sens peser sur moi le regard de l'autre. Et je n'ai pas vu ses yeux. C'est la lumière qui transparaît à travers les rideaux ou à travers les volets qui me laisse penser que l'autre, peut-être, ou qu'un autre ici, est en train de me regarder, autrement dit qu'un autre est en train de porter sur moi un jugement. Si l'on réfléchit ainsi, non seulement le regard n'est pas l'œil, mais le regard, il est plus que l'œil, ou en tout cas, il est au-devant de l'œil. D'une certaine manière, le regard, il n'est pas simplement ce qui habite l'œil. Il occulte les yeux. Si j'appréhende le regard, écrit Sartre, je cesse de percevoir les yeux. Si j'appréhende le regard, je cesse de percevoir les yeux. Bien sûr, je sais bien qu'ils sont là. Quand je parle avec l'autre, je sais bien qu'il est là, que son corps est présent, que ses yeux sont là. Mais en même temps, je ne perçois plus ses yeux. Je perçois quelque chose qui est de l'ordre du regard. D'ailleurs, il est intéressant, il est frappant de constater qu'il est compliqué lorsque l'on parle avec l'autre et que l'on est sous son regard, il est compliqué à ce moment-là d'évaluer ses yeux, c'est-à-dire de se dire, par exemple, qu'il ou qu'elle a de beaux yeux. Pour pouvoir porter un tel jugement, il faut que je porte sur les yeux de l'autre un regard qui soit un peu oblique. Il faut que je ne sois pas moi-même placé sous le regard de l'autre. Il faut que je me mette un peu de côté au regard de ce regard. Donc le regard ici, d'une certaine manière, est devant l'œil. Il occulte l'œil. Il est comme une projection de la conscience au-delà même du corps-objet. Il révèle à cet égard-là que nous sommes des êtres qui existons et que cette existence pour nous signifie que nous ne sommes pas emprisonnés dans un rôle, dans une tâche, à une place. Le regard signifie que nous sommes un être qui se projette, qui va vers l'extériorité. Le regard n'est pas ce qui habite l'œil. Il est au-devant des yeux et il révèle du coup le sujet qui transcende le corps. Il révèle qu'il y a en l'autre quelque chose qui transcende son corps et qui me juge toujours potentiellement. Le regard est une source d'inquiétude. Au fond, il se joue dans le regard quelque chose qui est à la racine de nos existences. Dans le discours sur l'inégalité, Rousseau décrit une expérience singulière. Il imagine une sortie d'état de nature hypothétique où des jeunes gens chantent et dansent autour d'un grand feu. Le chant et la danse, dit Rousseau, vrais enfants de l'amour et du loisir. Tout va bien. Tout va bien. L'esprit connaît les premiers élans du cœur. La pensée s'actualise. L'homme révèle ses potentialités. Tout va bien. Oui, mais aucune société ne fera jamais en sorte que chacun chante et danse également bien. Il y en a qui seront dans la lumière immédiatement et d'autres qui sont dans l'ombre. Et pour ceux qui se trouvent dans l'ombre, se pose la question de savoir pourquoi les regards ne sont pas tournés vers eux. Autrement dit, lorsqu'on est placé sous le regard de l'autre, nous sommes toujours potentiellement jugés. Et le regard de l'autre représente de ce point de vue-là comme une sorte de catastrophe originaire contingente. Catastrophe, parce qu'elle change tout. Originaire, parce qu'elle est au commencement de notre vie sociale, dans le fond, et contingente, parce que, après tout, en droit, dans un autre monde possible, elle aurait pu ne pas se produire. Donc, penser le regard, ça n'est rien d'autre, finalement, que penser l'homme. C'est penser l'homme, non pas en tant qu'un corps-objet possédant le sens de la vue, puisque le regard n'est pas l'œil. Ça n'est pas non plus penser l'homme comme une conscience tournée vers le monde. C'est pas penser simplement le regard comme l'ancrage au monde d'une conscience, non. C'est d'abord penser l'homme comme une conscience, mais qui fait l'épreuve d'être toujours potentiellement chosifié par l'autre. Penser le regard, c'est toujours penser à un mode de relation à l'autre qui est source d'une inquiétude. Mais bon, cette inquiétude-là, elle peut être une crainte. Elle peut simplement être une inquiétude. Et une inquiétude, pour le philosophe, n'est rien d'autre qu'un questionnement. Et si une chose intéresse le philosophe, ça n'est pas la crainte, mais précisément le questionnement. À cet égard, le regard de l'autre est un véritable objet de réflexion philosophique.
Le quart d'heure philo sur JetFM par l'association Philosophia, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 18h45, rediffusion les deuxièmes et quatrièmes vendredis.